L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Michel de Gégère. Michel de Gégère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Figaro Histoire, historien, auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes déjà venu en évoquer certains sur cette radio, entre autres « Les derniers jours, la fin de l'Empire romain », « La compagnie des ombres, un automne romain », plus récemment « Le cabinet des antiques ». Dans la même veine, vous publiez, aux belles lettres, « La mélancolie d'Athéna, l'invention du patriotisme », un ouvrage de 626 pages vendu 24,90 €, qui est absolument remarquable, car il nous permet de comprendre les racines de notre civilisation et, ce qui est peut-être encore plus important, les ruptures qu'elle est en train de vivre. Michel de Gégère, pourquoi en revenir encore et toujours à Athènes, à la Grèce ?
Eh bien, en fait, parce que les Grecs ont ceci de particulier, qu'ils ont souvent été les premiers à réfléchir et à écrire sur des problèmes qui se posent, qui vont se poser aux hommes pendant toute l'histoire et qui se posent encore à nous aujourd'hui. Ils sont les premiers à utiliser l'écriture qu'ils redécouvrent après des siècles obscurs au cours desquels l'écriture avait disparu. Ils empruntent l'écriture aux Phéniciens vers le 9e, 8e siècle. Et à partir de là, ils vont utiliser leurs connaissances pour réfléchir sur les problèmes qui se posent à eux en universel. Ils ont une espèce de fraîcheur, si vous voulez, devant les dilemmes que pose la vie politique, que posent les abîmes de la condition humaine. Une fraîcheur qui les amène à consigner ce qu'ils ont fait, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Et c'est ce qui donne une très grande portée à leurs écrits. Si vous voulez, on dit que les Grecs ont inventé l'histoire parce que, avec Hécate de Milet, puis surtout Hérodote, puis Thucydide, ils sont effectivement les premiers à raconter leur histoire, non pas sous forme comme on existait avant eux, l'histoire sous forme de listes de souverains, d'inscriptions monumentales qui relèvent souvent de la propagande. Il s'agit de montrer les hauts faits du souverain pour qu'on lui obéisse. Là, nous sommes en face, avec Hérodote, d'un historien qui fait une enquête pour savoir le vrai, qui confronte les points de vue et qui écrit avec l'idée que ce qu'il écrit, eh bien, puisse servir aux hommes de l'avenir, puisse garder la mémoire des hauts faits des ancêtres, puisse faire connaître les mœurs des barbares, puisse faire connaître les autres civilisations et puisse nourrir la réflexion. Et avec Thucydide encore plus, puisqu'il écrit l'histoire de la guerre du Péloponnèse en disant que la loi des choses humaines qui fait que l'homme étant ce qu'il est, les situations analogues ne manqueront pas de revenir, en racontant la guerre des Grecs, eh bien, il essaye de dégager des règles universelles de la guerre, des règles universelles des relations de puissance entre cités. Donc vous voyez, tout cela fait que la littérature et l'histoire grecque ont une portée qui nous parle, qui ont une portée universelle, qui fait que tout cela nous parle. Alors il faut se méfier, si vous voulez, de faire des analogies mécaniques, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne lit pas l'histoire, et notamment l'histoire des Grecs, comme on lirait une boule de cristal dans laquelle serait inscrit notre avenir, parce que la liberté humaine fait qu'on peut toujours changer l'histoire. Mais ils ont réfléchi sur leur histoire de telle sorte qu'ils nous livrent un certain nombre de scénarios qui nous montrent ce qui se passe quand on fait certains choix. Quelles sont les conséquences de certains principes, quelles sont les erreurs qui amènent à certains malheurs. Et tout cela donne une très très grande actualité à la lecture de leurs textes. Et c'est pour ça que je me suis penché sur cette histoire, non pas encore une fois pour y lire l'avenir, mais pour essayer d'y comprendre le présent.
Est-ce que vous ne touchez pas un point essentiel lorsque vous évoquez cette naissance de l'histoire, du métier d'historien, dans la mesure où un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir, mais il n'a pas non plus conscience d'être un peuple? Est-ce que l'histoire n'est pas à la fois la naissance de la patrie et du patriotisme?
Oui, ce que vous me dites me fait penser à Simone Veil, la grande Simone Veil, la philosophe. Il disait, de tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Évidemment, le présent est une ligne mouvante, l'avenir nous est inconnaissable, ce que nous pouvons connaître, le passé. Et donc, ce que nous sommes, c'est d'abord un passé. Et donc, nous nous rattachons à une patrie, à un peuple, et bien par déjà la connaissance de notre passé. Et on voit cela en grec, c'est pour ça que j'ai sous-titré, si vous voulez, mon livre « L'invention du patriotisme ». Parce que, pourquoi « invention du patriotisme » ? Parce que, si vous voulez, il est probable que l'attachement des membres d'une communauté à sa communauté est aussi vieux que l'homme. Mais il y a eu un phénomène nouveau qui s'est passé en Grèce, qui est l'invention de la cité délibérative, c'est-à-dire, si vous voulez, l'invention de ce nouveau type de communauté politique qui n'est pas un royaume dirigé par la loi du plus fort, mais une petite communauté délibérant dans l'amitié pour chercher le juste. Et évidemment, ce type de communauté politique a suscité un attachement immense, beaucoup plus fort que ce qui pouvait exister auparavant, et d'autant plus fort que ces communautés étant petites, elles étaient entourées d'autres communautés, donc souvent dans des situations de rivalité, de guerre, où l'on pouvait tout perdre, où l'on pouvait perdre sa liberté, où on pouvait perdre sa vie. Et donc, le patriotisme, l'attachement à la cité à laquelle on devait d'être en vie, dont on devait de ne pas être esclave, a été évidemment très, très fort. Mais au tournant du 5e siècle, au début du 5e siècle, avec les guerres médiques, ce patriotisme va prendre une couleur nouvelle, si je puis dire, puisque les Perses, en envahissant la péninsule balkanique, en voulant soumettre les cités grecques, eh bien, propose aux cités grecques de survivre si elles se rendent sans combattre. Il y a toute une offensive diplomatique très intéressante où le roi perse dit aux cités, mais écoutez, si vous manifestez une suggestion minimale, eh bien, on vous laissera en paix. Et un certain nombre de cités, 31 d'entre elles, décident malgré tout de combattre. La plupart se soumettent. Et pourquoi est-ce qu'ils décident de combattre? Eh bien, pour être fidèles à leur passé. Parce qu'ils comprennent que, si vous voulez, le patriotisme, ça n'est pas seulement assurer la survie matérielle de la cité, puisque en se rendant, celle-ci n'aurait pas été menacée, mais c'est être fidèle à une certaine manière de vivre, à un certain passé, à un héritage, et finalement à une civilisation. Et c'est cela que les Grecs défendent au cours des guerres médiques, et c'est pour ça que cette histoire des guerres médiques, que ces noms de Marathon, de Salamine, résonnent encore dans nos âmes et dans nos mémoires, c'est parce que c'est un moment où les Grecs ont découvert que leur patriotisme n'était pas une autolâtrie, si vous voulez, ça n'était pas un amour exclusif de soi, c'était l'amour d'un passé qui vous oblige.
Ce qui ne va pas de soi, ce qui est remarquablement intéressant, parce que c'est d'une grande actualité, il y a toujours la tentation des arrangements lâches, de la survie immédiate, des compromis et des compromissions. Et c'est face à cette tentation qui est de toutes les époques que l'âme grecque, si l'on peut dire, va se lever, préférer la liberté ou la mort. C'était le titre d'un très beau roman de Kazantzakis d'ailleurs. Et nous avons ces dates extraordinaires de Marathon, en 490 avant notre ère. Et si nous pouvions nous arrêter, Michel de Gégère, sur quelque chose qui est un épisode glorieux et dramatique, c'est en 480, Léonidas et les Spartiates aux Thermopyles. Alors là, nous avons affaire à quelque chose qui est une leçon pour l'histoire, avec cet épitaphe de Léonidas et de ses soldats passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour que vivent ses lois.
Alors, c'est effectivement un épisode qui est fondateur, finalement, de l'histoire européenne, hein, mais qui est très intéressant parce que, si vous voulez, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que les Grecs se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'une patrie. Patria, en grec, au départ, ça veut dire la lignée, les fils d'un même père. Patria, c'est la lignée. Et puis, Homère, donc, dès le 8e siècle, dans l'Odyssée, emploie le terme « la terre des pères ». Ulysse, quand il retourne à Ithaque, dit « je me voilà revenu dans la terre de mes pères ». Et que fait Ulysse ? Lorsqu'il rentre à Ithaque, eh bien, il se débarrasse des prétendants qui occupaient sa maison, qui mangeaient son bien et qui convoitaient sa femme, des gens venus de Céphalonie. Et donc, il restaure sa souveraineté, il restaure sa liberté. Et on voit dès Homère définit ce qu'est une patrie, un peuple, une lignée, un peuple, une terre et une souveraineté. Et alors, il va, si vous voulez, fonder les dilemmes que vont rencontrer les Grecs au cours de leur histoire, et notamment au cours des guerres médiques, c'est qu'il va y avoir quelquefois des choix à faire. Des choix à faire entre qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que l'on protège en premier, mon peuple, mon territoire ou ma souveraineté. Et les Spartiates aux Thermopyles, si vous voulez, ils sont confrontés à ce premier dilemme, car un parti à Sparte estime que pourquoi aller se battre, il faut avoir un tout petit peu la géographie de la Grèce en tête. Les Thermopyles, si vous voulez, c'est au nord d'Athènes, c'est le dernier passage où l'on peut arrêter les Perses avant qu'ils n'envahissent toute la Grèce continentale. Et un certain nombre de Péloponnésiens et de Spartiates estiment qu'il n'est pas utile d'aller se battre là-bas et qu'il vaudrait mieux rester sur l'isthme de Corinthe, c'est-à-dire la petite presqu'île qui relie le Péloponnèse au continent, où il sera plus facile d'attendre les Perses. Mais faire cela, c'est abandonner les autres Grecs, c'est abandonner la liberté grecque. Et Sparte, qui au VIe siècle avait acquis une espèce de prééminence d'honneur par la force de ses guerriers, la valeur, l'ancienneté de ses lois, le courage au combat, tout un prestige qui en faisait la première cité de la Grèce, à Sparte, Léonidas et un certain nombre de partisans estiment que l'on ne peut pas, si vous voulez, se cantonner à cette défense du seul Péloponnèse, parce que c'est toute la Grèce qui est en jeu, et avec elle, encore une fois, une certaine manière de vivre, une certaine conception de la liberté. Et donc, ils décident d'aller défendre le défilé des Thermopyles, qui est un petit défilé entre la montagne et la mer, où, avec un petit nombre de soldats, on pense qu'on pourra peut-être arrêter l'immense armée perse, qui est infiniment supérieure en nombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de même un texte de Diodore de Sicile, alors je veux bien que ce soit un petit peu tardif, mais qui est intéressant, qui raconte une tradition. Vous savez, on parle toujours des 300 Spartiates qui étaient aux Thermopyles, en réalité, ils étaient 1000, puisqu'il y avait 300 hoplites qui étaient des citoyens Spartiates, mais il y avait aussi 700 périèques. En fait, il y avait 1000 lacédémoniens qui étaient aux Thermopyles. Et les efforts à Sparte, il faut comprendre que le roi n'est qu'un général en chef et ce n'est pas le roi qui gouverne, ce sont des magistrats qu'on appelle les efforts. Et ces efforts disent à Léonidas, mais pourquoi pars-tu avec des effectifs si peu nombreux? Est-ce que tu crois que tu vas vers une affaire facile et de peu d'importance? Et Léonidas dit non, je ne pense pas que j'aille à une affaire de peu d'importance, mais j'y vais pour mourir pour la Grèce, parce qu'en fait il sait que c'est un combat perdu d'avance. Et comme je vais pour mourir pour la Grèce, il ne faut pas mettre toutes nos forces, parce que sinon, la patrie serait sans défense après notre défaite. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il veut défendre au prix de sa vie l'honneur national, si l'on veut, la réputation de Sparte. Il défend aussi la cohérence de la coalition, parce qu'il est évident que si Sparte avait abandonné la défense commune, eh bien, chacun serait parti de son côté. Donc, il veut défendre la cause de la Grèce, mais pas au prix de la patrie. Car si l'on menait toutes les forces spartiates aux Thermopyles, Sparte se serait retrouvée sans défense après la défaite. Donc vous voyez, on est en permanence dans ces choix complexes. Que faut-il choisir? Mon territoire, mon peuple, ma souveraineté? Ou faut-il défendre une manière d'être au monde qui sublime tout cela?
Les Athéniens vont d'ailleurs connaître le même dilemme quand Athènes se retrouve à son tour menacée par les Perses, avec cette tentation de quitter Athènes et d'aller la refonder. Ailleurs, la tentation d'échapper à la guerre ou au danger, de recréer sa civilisation dans une colonie. Mais nous sommes là dans ce que Danton, que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs, mais qui parfois a des formules justes, résumera en disant « on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers ».
Et oui, c'est exactement cela. Et on est exactement dans le même dilemme. Et si vous voulez, la décision de Thémistocle, hein, qui est bien connue, où Thémistocle choisit, parce qu'une fois les filets des Thermopyles percés, les Perses déferlent, si vous voulez, sur le sud de la péninsule balkanique et Athènes est considérée comme indéfendable. Et Thémistocle envoie les femmes et les enfants à Salamine et à Trézène, c'est-à-dire Salamine, c'est une île qui est tout à côté du Pirée, Trézène, c'est une petite ville amie du Péloponnèse, et les hommes sur la flotte. Et les hommes sur la flotte qui attendent les Perses dans le défilé qui est entre l'île de Salamine et le port du Pirée. Et ça consiste à livrer quand même la ville d'Athènes, à livrer les tombes et les sanctuaires des dieux. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que Xerxès et l'armée perse vont prendre Athènes et vont la brûler, vont incendier Athènes. Et il faut imaginer les combattants athéniens sur leur flotte, parce que c'est tout près, qui assistent à l'incendie de leur ville. Et un certain nombre d'entre eux se demandent à quoi cela rime de défendre la patrie au prix de la patrie. C'est-à-dire qu'on a quand même sacrifié le territoire. Alors pas au point, comme le suggéraient certains, comme vous le dites, de partir définitivement et d'aller fonder une autre ville au loin, mais quand même en sacrifiant les temples, la ville, et Thémistocle plaide auprès de ses compatriotes en disant que ce ne sont pas des murs inanimés qui font la patrie, et bien que c'est le peuple en armes qui est sur ses vaisseaux. Alors ça sera le bon choix militairement, puisque, comme on sait, les Grecs vont être vainqueurs à Salamine et la flotte perse va être repoussée. Xerxès lui-même va repartir en Asie au lendemain de sa défaite. Mais tout de même, et Xerxès en partant va laisser un corps expéditionnaire sur place pour continuer le combat, et le général qui commande ce corps expéditionnaire va proposer à Athènes une paix très avantageuse. Détachée du reste des Grecs, on va vous reconstruire votre ville que nous venons de détruire, on va vous agrandir votre territoire, et on vous donnera la prééminence sur tous les autres Grecs. La seule chose, c'est que vous serez sous la suprématie théorique d'un roi perse lointain et bienveillant. Et les Athéniens vont refuser, bien que, si vous voulez, ce programme soit très alléchant, et ils vont refuser en disant que, d'abord, ils ne peuvent pas accepter ce bienfait de l'ennemi qui vient de brûler les temples de ses dieux et de profaner les tombes des ancêtres. Et puis ensuite, il y a la Grèce. Il y a la Grèce à laquelle, nous, Athéniens, nous sommes unis par les dieux, nous sommes unis par les mœurs, nous sommes unis par l'histoire, et nous ne pouvons pas l'abandonner. Et donc, vous voyez, c'est l'expansion, la dilatation, si vous voulez, du patriotisme civique qui, pendant toute l'époque archaïque, si vous voulez, entre le 8e et le 6e siècle, avait quelque chose d'un petit peu étroit et borné, puisque les guerres n'opposaient que des Grecs entre eux, des querelles de bornage, de rivalité, d'honneur ou d'intérêt entre des cités grecques qui se faisaient la guerre, et le patriotisme consistait à préférer sa cité à toute autre cité. Là, il y a une espèce de dilatation du patriotisme dans la défense de quelque chose qui est supérieur à ce réflexe de défense et d'amour de soi, qui est une dilatation dans la manière d'être au monde qui est celle des Grecs, dans l'amour de la liberté, dans la communauté de religion, dans la communauté de civilisation qui est celle des Grecs, et qui justifie que les Athéniens refusent ces conditions avantageuses qu'on leur propose pour risquer tout dans la poursuite de la lutte. Et c'est en quoi toute cette expérience est absolument admirable pour nous.
Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité. À bientôt.